un des fondateurs de la fameuse brigade de la Drôme, qui était le pasteur Champandal, qui a été pasteur au Petit Lancy pendant de très nombreuses années jusqu'à sa retraite. Et le pasteur aussi Maurice Ladore, qui a été pasteur à l'église libre de Carouge, a été aussi très proche de la brigade de la Drôme. C'est donc des hommes quasiment contemporains que plusieurs d'entre nous avons connus. Et le réveil de la Drôme n'est pas le fruit d'une exportation anglo-saxonne, mais c'est vraiment le fruit du terreau francophone. Et plusieurs d'entre vous, certainement, sont allés soit dans les camps famille à Pouet-Laval, soit dans les camps de Valouse. Qui n'a pas été dans la Drôme? Eh bien, c'est justement dans cette région-là que le réveil est venu. Et puis, il est non seulement français, mais c'est un réveil non seulement francophone, mais dont tous les protagonistes, tous les pasteurs ont été des pasteurs réformés. Et je crois que ça aussi, c'est important, réformer et calviniste. C'est pourquoi c'est bien dans la tradition, dans la suite de l'année Calvin. Et enfin, c'est un réveil dont plusieurs sont encore vivants, dont les fruits sont encore, qu'on peut encore observer aujourd'hui. Je n'ai personnellement pas connu le réveil de la Drôme, j'étais trop jeune, ça a commencé en 1922 jusqu'à la dernière guerre, mais j'en ai beaucoup entendu parler dans ma jeunesse. Je peux dire que j'étais élevé dans l'écho du réveil de la Drôme. Ainsi, ma contribution s'appuiera essentiellement sur ce que mes parents m'ont dit et ont vu. Mon père a été très très proche des brigadiers de la Drôme. Il a lui-même fait partie d'une équipe parallèle de la brigade qu'on appelait la brigadette, une équipe de pasteurs non plus de la Drôme mais du Gard, hein, qu'on appelait le groupe de Gardoninque. On en a souvent parlé chez nous à la maison. J'ai d'ailleurs personnellement connu Jean Cadier et d'autres de ces brigadiers. Et puis, je m'appuierai ensuite sur les souvenirs de certains brigadiers et particulièrement sur les souvenirs du pasteur Champandal, que plusieurs d'entre vous connaissent, qui a été président de la Ligue pour l'écriture de la Bible en Suisse romande pendant de très nombreuses années, qui a été professeur à Emmaüs pendant plus de 20 ans, qui a été modérateur de la compagnie des pasteurs ici à Genève, qui a été vraiment un des pasteurs marquants de la compagnie des pasteurs. Et puis ensuite, sur certains documents, je m'appuierai aussi sur certains documents que les brigadiers de la Drôme ont écrits. Et j'aurai quatre parties. D'abord, une histoire du réveil de la Drôme, puis les caractéristiques de ce réveil, ensuite un bilan de ce réveil 80 ans après, et puis ensuite une conclusion pour aujourd'hui. D'abord, si on parle de l'historique de la brigade de la Drôme, il faut parler de l'état des paroisses au moment où ces pasteurs sont arrivés. Et il faut plutôt parler de la misère des paroisses, ou en tout cas de ces petites paroisses du sud du département de la Drôme, à cheval sur le Dauphiné et la Provence. Beaucoup de ces paroisses étaient non seulement somnolentes, mais quasi abandonnées. Dans le village de Volvent, par exemple, encore une fois, dans ces montagnes reculées entre le Dauphiné et la Drôme, il y avait un temple, mais le culte n'y était plus célébré depuis 16 ans. Et la porte du temple était envahie de ronces et de gravats, si bien que quand le réveil a éclaté, qu'on a voulu recommencer à faire des cultes, il a fallu prendre une pelle et une pioche pour dégager la porte pour qu'on puisse de nouveau entrer. Dans plusieurs de ces paroisses, il n'y avait plus de pasteurs. Personne ne voulait y aller. On disait même, c'était quasiment un proverbe, pour être pasteur dans ces paroisses, il faut être ou un fou ou un saint. Hein? Et J'ai souvent entendu le pasteur Champandal raconter dans quel état était sa paroisse de Vinsobres. Hein, vous connaissez Vinsobres, juste au sud de Nyons, hein, quand il est arrivé, frais et moulu, de la faculté de théologie de Genève. Hein, il était lui-même un pur genevois. Et son prédécesseur, dans la paroisse de Vinsobres, était un ancien prêtre qui était resté dans la paroisse de Vinsobres 18 ans, mais qui était devenu alcoolique. Les paroissiens aimaient le faire boire. Et à Vinsobres, c'est facile. Et ils s'amusaient de le voir rentrer au presbytère le soir en titubant. Ses paroissiens disaient « Ah, notre pasteur, il a fait l'aller-retour. Il est allé de Rome à l'Évangile et de l'Évangile au Rome. Il n'y avait quasi plus personne au culte. Dans la sacristie du temple, d'ailleurs ceux qui sont allés dans la région, je vous recommande, le temple de Vinsobres, c'est un magnifique temple au sommet du village, hein, qui est une ancienne église romane qui a été donnée aux protestants parce que le village, au moment de Napoléon, était en majorité protestante. Et Champandal a retrouvé le carnet où les collectes étaient relevées. Et tel dimanche, Champandal racontait, il y a eu collecte. La collecte ce dimanche a rapporté 25 centimes. Et Champandal disait, j'en ai déduit qu'il y avait au moins 5 personnes qui chacune en donnait un sou. Et c'est dans ces paroisses-là qu'un certain nombre de jeunes pasteurs sont arrivés à la sortie de la guerre de 14-18. Alors devant cet état de choses, devant la ruine de ces églises, une immense tristesse, une véritable agonie les a envahis. Plusieurs avaient fait la guerre, presque tous, sauf Champandal qui était suisse. Et ils se sont dit, on a fait le chemin des dames, on a fait Verdun, on a échappé à la mort. Est-ce pour retrouver cet état de mort spirituelle que nous avons échappé à la guerre? Et combien de fois j'ai entendu Champandal dire, le premier pas vers le réveil fut notre immense souffrance, notre agonie, c'est le terme qu'il employait, notre agonie face à la situation de nos paroisses. Et non seulement de nos paroisses, mais de notre Église. Oh, ils n'étaient pas tous évangéliques, loin de là. Racontant le réveil aux étudiants d'Emmaüs, où il était professeur, Édouard Champandal disait, je cite, « Si je vous racontais ce que je croyais à ce moment-là, vous sauteriez tous par les fenêtres. » Quant à Jean Cadier, qui a été un peu le chef de la brigade, qui est d'ailleurs devenu ensuite professeur de théologie, Jean Cadier, il était selon ses propres termes un rationaliste, et il parle de sa thèse de licence en théologie écrite au sortir de la faculté, comme je cite, « une thèse très mauvaise, très négative, vrai péché de jeunesse, que je supplie Dieu de me pardonner. » Ils étaient loin d'être tous des évangéliques, ou même orthodoxes, mais à leur manière, ils aimaient Dieu. Hein, et ils aimaient leur paroisse et leur église, et ils aspiraient à une vie alors qu'ils trouvaient la mort. Et puis, sous leur vernis théologico-intellectuel se cachait comme une nostalgie évangélique. Édouard Champandal racontait comment son grand-père avait été un des très rares pasteurs évangéliques de Genève à l'heure du libéralisme triomphant du XIXe siècle. Tellement évangélique même qu'il avait plusieurs fois failli être destitué, hein, à cause de ses positions évangéliques. Et Jean Cadier raconte que toute sa jeunesse avait été bercée par des chants de Rubens Saïens et ses missions de réveil dans les villes du Midi de la France. Et il y a là, me semble-t-il, une première remarque importante pour nous aujourd'hui. On vous a dit, j'ai été pasteur à Genève, je suis maintenant dans le canton de Vaud, mais je ne sais plus très bien comment a évolué l'église de Genève, mais je parlais justement, quand j'étais à Saint-Gervais, pour dire quand même, ça me frappe, ça me chagrine. Quand j'étais pasteur à Saint-Gervais, on était 5 pasteurs à plein temps à Saint-Gervais. Et au Paquis, la paroisse d'à côté, il y avait 3 pasteurs à plein temps et une assistante de paroisse. On était 9 à plein temps en ces 2 paroisses. Actuellement, les 2 paroisses ont fusionné et il n'y a plus qu'un seul pasteur. En 40 ans. Alors pour dire, mais j'ai la première remarque, c'est que chez plus de responsables d'église qu'on ne croit, il y a derrière une couche libéralo-politico-rationaliste, un fond, un noyau de piété qui ne demande qu'à être réveillé, je le crois. Donc ces jeunes pasteurs des paroisses du sud de la Drôme, devant l'état lamentable de leurs églises, connaissaient une véritable agonie. Mais ils n'en restent pas là. Dès 1921, ils se retrouvent régulièrement en pastorale pour prier, étudier les réveils dans la Bible et dans l'histoire de l'Église. Et c'est le deuxième pas vers le réveil. Comme l'écrit Édouard Champendal, c'est dans un des numéros de la revue Ictus, je cite, « Nous criâmes à Dieu, nous le suppliâmes de prendre en pitié nos églises, nous nous humiliâmes pour elles et pour nos pauvres ministères incapables de remédier apparemment à une situation sans issue. Nous le suppliâmes d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre d'en haut l'esprit qui fait revivre les ossements desséchés. » Ce fut le deuxième pas vers le réveil. Et le réveil va. Oserais-je dire, là où on l'attendait le moins. Dans la paroisse la plus reculée, sans pasteur depuis des années, la paroisse est le village de La Motte-Chalancon, pour ceux qui connaissent cette région, entre Nyons et la vallée de la Drôme. Comme aucun pasteur ne voulait y aller, car c'était une paroisse abandonnée, on y avait envoyé un évangéliste formé à l'armée du salut, qui s'appelait Victor Bordigoni. Et voyant l'état de délabrement de sa paroisse, très vite, il organisa une réunion de prière quotidienne. Et voici comment il raconte les événements, je cite encore. Un samedi soir de l'été 1922, quelques personnes étaient réunies comme elles avaient pris l'habitude de le faire depuis quelques semaines, afin de prier pour le réveil de notre paroisse. Nous réclamions un baptême du Saint-Esprit, sachant que ce n'est pas l'homme qui peut produire un réveil, mais la puissance de Dieu. À un moment donné, pendant que nous prions, nous avons compris que Dieu était d'accord de nous donner ce baptême et nous l'avons pris par la foi. Et la réponse ne se fit pas attendre. Le lendemain, il y avait un culte dans la petite annexe du village d'Establet, qui est un village à quoi 800, 900, près de 1000 mètres d'altitude. Un village qui aujourd'hui compte moins de 40 habitants. Au cours du culte, pendant la prédication, une femme se lève et fait signe au pasteur qu'elle veut dire quelque chose. Et le pasteur a l'humilité de s'interrompre et de dire « Ma sœur, vous voulez dire quelque chose ?» Alors elle dit « Oui ». Puis elle se lève, Puis elle se tourne vers les quelques personnes qui étaient là. Et elle dit, vous me connaissez? Elle le dit d'ailleurs moitié en français, moitié en patois, car on parlait patois à ce moment-là encore dans les campagnes. Et elle dit moitié en français, moitié en patois, vous me connaissez? Vous savez que le but de ma vie, que mes préoccupations essentielles, c'était ma ferme, mon troupeau de chèvres, mes picodons, les fromages de chèvres, c'était ça. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai compris, Dieu ne se contente pas de ce que je suis. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour Jésus-Christ. Ému comme le reste de l'auditoire, le pasteur arrête sa prédication, essaye de faire chanter un cantique, mais l'émotion est trop forte, les larmes coulent. Alors Bordigoni fait un appel, quelques personnes se lèvent. Le soir même, culte au chef-lieu, la Motte-Chalancon, tout ça c'est des petits villages qui ont quelques... Encore une fois, Establet, en 1922, avait peut-être 150 habitants. Maintenant, ça en a 20 à peu près, pas plus. Et Bordigoni raconte ce qui s'est passé l'après-midi à Establet. Et il fait de nouveau un appel. Et des gens se lèvent et se donnent à Dieu. Et le réveil était né. Et ce qui est frappant... C'est la rapidité avec laquelle le mouvement se répandit. Voici ce que dit encore Victor Bordigoni. Ce fut pendant 5 semaines, comme une vague puissante qui passa sur ces montagnes depuis longtemps plongées dans les ténèbres d'un formalisme mortel. Une centaine d'âmes firent acte de conversion. Or, on était au mois d'août 1922. C'était tous des paysans. On était en pleine moisson des lavandes, c'est la grande région des lavandes. C'est le moment où les paysans sont le plus occupés. Ils sont levés à l'aube, couchés à la nuit. Mais en quelques semaines, malgré les travaux des champs, non seulement ils ont repris le chemin du temple, mais émus par le délabrement de ces édifices, ils se sont mis à les réparer. Voici ce qu'écrit Jean Cadier. Malgré les travaux d'été, les paroissiens se mirent à l'ouvrage, apportant le sable, le bois, les pierres. On reblanchit les murs, on lava les sols, on cira les bancs. Au temple de Chalancon, alors que le travail s'achevait, un des hommes qui était là dit « Il manque quelque chose ». Trempant alors un pinceau dans un pot de peinture, il écrivit en grandes lettres claires « Gloire à l'Éternel ». Et Jean Cadier, qui rappelle cette anecdote, ajoute « C'est à ces gestes qu'on voit la sincérité d'un mouvement ». Et le 24 septembre 1922, soit moins de 2 mois après cette première conversion de cette dame d'Establet, on inaugurait déjà, devant une foule nombreuse, la restauration d'un autre temple dans un autre village, celui d'Arnaillon. Si vous allez dans cette région, là je vous recommande, d'ailleurs c'est une région de toute beauté, ces montagnes du sud de la Drôme, Bon, alors il y a Arnaillon, Establet, etc., Baldrome. Et c'est au cours de cette rencontre qu'Édouard Champendal, qui était arrivé quelques mois auparavant comme jeune pasteur, assez libéral, d'ailleurs il aimait raconter que sa première prédication au temple de Vinsobres, il avait fait une belle prédication d'intellectuel genevois libéral, et à la sortie, une dame était venue, puis il lui avait dit « Monsieur le pasteur, c'est pas avec des prédications comme ça que vous édifierez l'Église. » Et Champendal racontait, je lui en ai pas voulu à cette bonne dame. Elle est devenue ma belle-mère. Mais il était venu, il avait entendu qu'il y avait quelque chose qui se passait, il comprenait pas très bien pourquoi, et... Il a été à cette inauguration et ça l'a bouleversé. Souvent, je l'ai entendu dire, il est des dates qui marquent dans la vie. Pour moi, c'est le dimanche 24 septembre 1922. C'est là qu'il a, au fond, qu'il s'est converti. Et 2 mois plus tard, les 27 et 28 novembre 1922, se tenait à Cray, au bord de la rivière la Drôme, une retraite de 2 jours, groupant la trentaine de pasteurs du synode réformé de la région. À la fin de la retraite, le pasteur Bordigoni demanda la parole. Jusque-là, il s'était tu. Et très pâle, il dit, je cite, « Je vous ai écouté pendant ces 2 jours et je me suis demandé si vous saviez qui est Dieu et quel est le ministère auquel il nous appelle. Dieu peut-il être satisfait de ce que vous êtes? Pourquoi êtes-vous vaincu? Dieu aurait-il changé? Non, il n'a pas changé. C'est vous qui avez changé et êtes des obstacles à sa puissance. Repentez-vous, confessez votre faillite, prenez des résolutions nouvelles et que la gloire de Dieu se voie désormais. » Nous nous sommes agenouillés, dit le compte-rendu, et nous avons demandé pardon à Dieu de notre faiblesse. L'un parla de sa lâcheté devant les âmes, l'autre de son orgueil, l'autre de ses doutes, l'autre de ses rancunes secrètes. Il fut dit beaucoup plus encore. Quand nous nous sommes relevés, Dieu nous avait visités. Et cette repentance des pasteurs fut le 3e pas, et pas le moindre, vers le réveil. Car désormais, ce qui était confiné dans cette paroisse reculée de la Motte-Chalancon avec ses quelques annexes, se répandit dans tout le sud de la Drôme. Le lendemain même, le pasteur Henri Hébrard, pasteur à Dieulfy, prit le sermon qu'il avait préparé pour le dimanche suivant, il le déchira et le jeta au feu. Et le dimanche, il monta en chaire et dit, commença son sermon comme ça, je cite, « Mes frères, le réveil vient de commencer dans notre église, et le premier réveillé, c'est moi. » À la fin de son sermon, il dit « Ceux qui, comme moi, veulent mettre Dieu au premier rang de leur vie, qui veulent lui consacrer leur vie et se décider pour lui, qu'ils inscrivent leur nom sur le registre que j'ai préparé à la sortie. » Et à la sortie, en effet, plusieurs personnes s'engagèrent ce jour-là et signèrent leur nom, comme une carte de décision. Et 2 ou 3 jours plus tard, une dame vint trouver le pasteur et lui dit « Vous savez, j'ai été ému par votre témoignage et par votre sermon. J'ai mis mon nom dans le registre, mais j'ai réfléchi depuis. Je ne suis pas prête. Enlevez-le. » Alors Henri Hébrard est allé chercher son cahier, il a ouvert à la page et lui a dit « Effacez votre nom vous-même, madame. » Alors bouleversée, elle a eu l'impression qu'elle effaçait son nom du livre de vie, elle a éclaté en sanglots. Et là, devant le pasteur, dans son bureau, elle s'est vraiment convertie. Et désormais, c'est dans la plupart des paroisses du sud de la Drôme que le feu prend. 4 pasteurs alors s'unissent pour tenir des missions de réveil dans leur propre paroisse. On les appellera très vite la brigade de la Drôme. Pourquoi la brigade ? Pendant la Première Guerre, on appelait ainsi ces petits groupes d'assaut qu'on envoyait aux points les plus menacés du front. On était juste après la guerre, tous ces pasteurs sortaient du front. Et les brigadiers, c'est-à-dire Édouard Champandal, pasteur à Nyons, Jean Cadier, pasteur à Valdrôme, source de la rivière la Drôme, Henri Hébrard, pasteur à Dieulfy, et Pierre Caron, pasteur à Valréas, commencèrent des missions dans leur paroisse. Message d'appel à la conversion, de retour à Dieu et à une vie sanctifiée. Et les conversions se multiplièrent. J'entends encore Édouard Champendal dire que dans tel village, il avait vu sur la porte du café cet écriteau fermé pour cause de conversion. Ça, c'est le réveil quand on voit ça sur... Hein. Dans tel autre village, à Sainte-Euphémie, dans ce qu'on appelle les baronnies, un groupe de jeunes qui se réunissaient régulièrement pour la prière écrivit au maire et au conseil municipal pour demander de supprimer la vogue annuelle, car elle était cause de débordement. Et le conseil municipal la supprima, et le compte rendu marque ceci, je cite, « la jeunesse ayant décidé de ne plus danser ». Et les missions se multiplient dans les paroisses. Voici comment Jean Cadier décrit la mission de la brigade dans sa paroisse de Valdrome. Les réunions étaient très suivies, malgré le mauvais temps. On était, je crois, en novembre. Les messages étaient directs. « Qu'as-tu fait de ton âme ?» était l'appel d'Henri Hébrard. On chantait beaucoup. Le refrain du réveil « c'est la joie du ciel » retentissait partout. Un jeune ayant déniché un cornet à piston le jouait sur la place. Un cantique faisait fureur. « Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ » et aussi « blanc plus blanc que neige ». Les appels étaient centrés sur la croix, son œuvre de pardon, sa puissance de salut. Les vieillards pleuraient, les jeunes chantaient. Et au moment de l'appel, tout le monde resta. La réunion fut prolongée jusqu'à minuit. Puis enfin, quand les gens se décidèrent à partir, on les entendait chanter sur les chemins de montagne. Et le mouvement s'étendit. Les brigadiers furent vite appelés dans d'autres paroisses, de la Drôme bien sûr, mais aussi ailleurs et bientôt dans toute la France, en Suisse, en Belgique et même en Algérie. Il vient ici, si une femme que nous avons, la plupart d'entre nous connue, une Edmé Côtier, était le fruit d'une mission de la brigade de la Drôme dans son village de Rougemont. Et d'ailleurs, ils ont prêché à la cathédrale de Saint-Pierre. J'en reparlerai peut-être plus tard, parce que ça a été toute une histoire. Mais le travail de la brigade ne se limita pas à des missions de réveil. Dans les paroisses, très vite, dès 1925, ils publièrent un journal mensuel intitulé « Le matin vient ». D'après ce passage d'Ésaïe 22, verset 11, « Sentinelle, où en est la nuit ? Le matin vient ». Journal qui donnait des nouvelles du réveil et des messages d'édification pour fortifier les convertis. Ce journal, très vite, eut 5000 abonnés, qui fut suivi ensuite des cahiers du matin vient, donnant des études plus fouillées, plus théologiques, comme celui sur l'autorité de l'écriture et d'autres encore. Comme dans tout réveil, il y eut des vocations. La brigade fonda notre école à Dieulfi pour former des évangélistes. Cette école, qui dura de 1928 à 1934, avait pour but, premièrement, affermir la foi de nos jeunes convertis en les plaçant dans un milieu favorable, d'éclairer et d'enrichir cette foi naissante. Deuxièmement, de donner à ceux qui ont entendu la vocation du Maître le moyen d'éprouver cette vocation en un stage de quelques semaines. Mais ce qui eut peut-être le plus grand impact, ce furent les conventions qui se tinrent d'abord à Dieulfi et qui devinrent le moment fort de la brigade qui avait lieu en septembre. Il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, il y avait un train à ce moment-là qui allait de Montélimar jusqu'à Dieulfi. Et le soir, il y avait un train spécial pour ramener les conventionnistes de Dieulfi jusqu'à la Bégude de Mazin. et des conventions analogues furent organisées un peu partout, en Poitou, en Cévennes, en Gardoninque, au pays de Montbéliard, au Jura bernois. Les brigadiers ont souvent été, ils parlaient souvent de notre cher Jura bernois. Et c'était des conventions plus brèves, de 3 ou 4 jours, mais dans le mouvement, ils étaient très proches d'ailleurs de la convention de Morges, dans la mouvance de la convention de Morges. Ainsi, ce mouvement qui partit de la conversion d'une humble paysanne, d'un hameau des montagnes dauphinoises, se répandit, on peut le dire, dans tout le monde francophone, essentiellement réformé, il est vrai. Et quelles étaient les caractéristiques de la brigade et son message? C'est le deuxième point que je voulais mentionner. La première chose qui me frappe, c'était la jeunesse de ces brigadiers. À part Victor Bordigoni, ils avaient tous entre 25 et 30 ans, et pour chacun d'eux, c'était leur première paroisse. Et puis une deuxième caractéristique, c'est qu'ils ont d'emblée formé une équipe. Et cela, c'était, je crois, assez nouveau, car comme chacun sait, le protestant est individualiste, et les plus individualistes des individualistes, c'est les pasteurs. Hein? Leur jeunesse, d'ailleurs, a probablement favorisé cet esprit d'équipe. Ils se sont formés ensemble, chacun gardant ses spécificités et ses dons propres. Cadier était le théologien. Je vous ai dit, il a commencé comme pasteur rationaliste, et puis il a été bouleversé par le réveil. Il a dit, mais tout ce que j'ai appris, c'est tout faux. Et il dit, je me suis mis à étudier Calvin. Et il est devenu le président, d'ailleurs, de la Société calviniste de France. Et ensuite professeur de théologie à Montpellier. Hébrard était le tribun, était le grand orateur, c'est lui qui faisait toujours l'appel. Champandal était l'historien. Mais c'est en tant qu'équipe qu'ils invitaient, qu'ils parlaient. Et je crois que ça fait une grande partie de leur impact. On n'invitait pas un tel ou un tel, on invitait la brigade. Ils venaient les quatre. La troisième caractéristique, c'est qu'ils étaient tous des pasteurs réformés. Ce qui leur ouvrit très vite les portes des paroisses réformées, enfin de certaines paroisses, car il y eut aussi des oppositions farouches. À un certain moment, au début du réveil, les autorités de l'Église sont venues les trouver, ils ont été convoqués tous à Valence, ils sont allés, les quatre, et le représentant des autorités de l'Église leur a dit « C'est bientôt fini cette comédie ?» Ils ont dit « Quelle comédie ?»« Ben, vos réunions, si vous finissez pas bientôt, autre chose sera terminée. » Alors on dit « Quoi ? Votre traitement ?» Ils sont sortis de cette réunion catastrophée et ils sont vandalisés. On était tous de jeunes pères de famille. On avait tous environ 30 ans, ben, qu'allons-nous devenir si on supprimait notre traitement? Et ils étaient tous livides quand l'un d'eux a dit « Ce ne sont que des hommes, Dieu est souverain, allons boire un café. » Et en effet, ça en est resté là, les menaces n'ont jamais été mises à exécution. Mais c'est dire que ce n'était pas toujours facile. C'est aussi ça le réveil, être en butte à l'opposition d'une partie de la paroisse et parfois des autorités ecclésiastiques. Une autre caractéristique qui est très frappante quand on lit les premiers numéros du périodique Le Matin Vient, les archives d'ailleurs de la brigade de la Drôme sont au musée du protestantisme dauphinois à Pointe-Laval, que je vous recommande de visiter d'ailleurs. Il y aura deux expositions même spéciales sur Calvin cette année. C'est une des caractéristiques des premiers numéros, c'est l'enthousiasme, l'esprit de victoire qui anime ce mouvement. Au numéro 5 de janvier 1926, voici ce que veut lire le titre. « Le réveil du XXe siècle est commencé. » D'ailleurs, le titre même du journal le dit bien. « Le matin vient, c'est déjà tout un programme de joie et de victoire. » Et avec l'enthousiasme, c'est le dynamisme qui les caractérise. Un autre article dans ce numéro 6 est intitulé « Ce que nous voulons ». Je cite « Nous voulons un retour à la fois simple mais vivante qui fut celle des premiers chrétiens et des huguenots du XVIe siècle. Nous voulons que l'homme ne marche plus la tête basse, sans espérance, mais qu'il comprenne que réconcilié avec Dieu par Christ, il est appelé à une vie glorieuse et éternelle, la vie des enfants de Dieu. Nous voulons qu'une place, la place d'honneur, soit faite à Dieu dans la vie familiale et individuelle. Nous voulons que la Bible, parole de Dieu, lue, méditée et mise en pratique, redevienne la base de la famille chrétienne. Nous voulons que le protestantisme français reprenne l'œuvre de la réforme interrompue par 3 siècles de persécution et 100 ans de funestes concordats et parte à la conquête du peuple entier pour Christ. Ce n'est pas un message triomphaliste ou optimiste, ou encore moins une sorte d'évangile de la prospérité avant le temps, mais un message de consécration, de foi dans l'œuvre de Dieu, d'un message de vie nouvelle et de dynamisme. Une 5e caractéristique était une prédication très centrée sur la sainteté de Dieu, avec ce mot d'ordre qui était comme un signe de ralliement de la brigade: Dieu ne se contente pas de ce que nous sommes. Prédication appelant à la repentance, à la foi, à la conversion et à la sanctification. Comme Rubens Saïens avant eux, les brigadiers terminaient leur réunion par un appel à la conversion et ils invitaient les auditeurs à signer des cartes de décision, distribuer à ceux qu'ils voulaient des cartes. On disait « me reconnaissant coupable devant Dieu, je me repens et je m'engage à suivre Jésus-Christ et à lui donner ma vie ». Lors d'une mission à Paris, au temple des Batignolles, lors de la dernière réunion, plus de 220 cartes de décision signées en particulier par des jeunes furent remises à la brigade. Cette insistance sur la conversion et la sanctification leur valut de nombreuses critiques. On les a très vite et très longtemps traités de moralisateurs. Dans un colloque sur la vie des églises protestantes de la vallée de la Drôme de 1928 à 1938, tenu à la faculté de théologie de Montpellier en 1974, c'est encore ce reproche qu'on fait à la brigade. Et voici la réponse de Jean Cadier qui était là et qui répond, je cite, « J'entends bien ces critiques. Elle les a moi-même ressentis. Je veux dire simplement que pour nous, dans la situation où étaient nos églises, il était essentiel qu'il y ait ce commencement de vie qui s'appelle la nouvelle naissance, que les gens soient appelés à franchir ce seuil pour entrer dans la vie de l'esprit. C'est pour cela que nous insistions tellement sur la conversion. » Quant au reproche de moralisateur, il ajoute, je cite toujours, « Quand on veut lutter contre le mal, on est bien obligé de dire quelquefois « Vous ne devriez pas faire ceci ou cela » et l'on se fait traiter de moraliste. « Je vous dis toute ma pensée », dit encore Jean Cadier, c'était devant d'autres professeurs de théologie et d'autres pasteurs, « si j'avais un message à apporter maintenant à l'Église, ce serait bien le moralisme. » Et une 6e caractéristique qui me semble extrêmement importante et actuelle est une unité très rare dans les mouvements de réveil entre l'émotion et la doctrine, entre l'enthousiasme et la dogmatique, entre le témoignage et l'enseignement, ou pour le dire autrement, entre le piétisme et le calvinisme. Car la brigade, au fond, c'est du piétisme calviniste, ou, si vous préférez, du calvinisme piétiste. De l'enthousiasme, de la piété, il y en avait. Un des chants que les auditeurs des missions de la brigade appréciaient particulièrement et qu'ils chantaient inlassablement, surtout dans ces villages de leur première paroisse, était un chant en patois, car on parlait encore patois dans ces montagnes reculées. Hein. C'est « N'ayez pas besoin de coffre-fort, per conserva quel trésor hein. ». On chante aussi en français, hein. Je n'avais pas besoin de coffre-fort pour conserver ce tel trésor. Jésus est mon gardien, il me gardera bien, etc. N'ayez pas besoin de coffre-fort, per conserva quel trésor, etc. Mais il y avait aussi de la réflexion, des messages structurés, une vraie théologie de base. C'est devant ces auditoires, je l'ai déjà dit, que les brigadiers ont refait leur théologie. Et eux, en étudiant la Bible et Calvin, eux qui étaient à la base des libéraux, sont devenus les champions de l'orthodoxie. Dans un fameux sermon, j'y reviens, prononcé à la cathédrale de Genève, ici, à Saint-Pierre, Henri Hébrard s'est écrié, je cite, « Et à tout serpent, qu'il soit diable ou libéral, qui veut insinuer, Dieu a-t-il réellement dit, je crie menteur !» Il paraît qu'un des professeurs de théologie de Genève s'est levé pour protester. Ce sermon a été publié d'ailleurs, mais ils n'ont pas osé mettre le mot libéral ou moderniste. Ils l'ont remplacé par « doute ». Mais Champondal, qui m'a raconté cette histoire, m'a dit « Oh, Hébrard avait bien dit hein, libéral ou moderniste ». Alors, je ne sais pas s'il faut attaquer de front le libéralisme, mais je sais que cet alliage, ou cette alliance entre piété et doctrine, émotion et enseignement est fondamentale pour créer quelque chose de solide dans nos églises. Enfin, une septième caractéristique, et là on touche déjà à des problèmes plus difficiles, qui a marqué profondément le protestantisme à l'époque, c'est le refus de la brigade du mouvement pentecôtiste qui commençait à l'époque en France et en Suisse, qui était d'ailleurs à l'origine d'un autre réveil de l'autre côté du Rhône, en Ardèche, hein. Il y avait un réveil pentecôtisant en Ardèche et un réveil calviniste dans la Drôme. Et ils se sont copieusement mal compris. Suite à un article assez virulent, il faut le dire, de Pierre Caron, pour mettre en garde contre le pentecôtisme, il y eut 2000 désabonnements au journal Le Matin Vient. C'était deux conceptions du réveil qui s'affrontaient et qui parfois s'affrontent encore, hein, et ça a été un moment difficile. Mais c'est intéressant d'ailleurs, Jean Cadier, ensuite, s'est réconcilié avec tous ces pasteurs de l'Ardèche, hein, dans des moments assez bouleversants où ils se sont retrouvés profondément. Mais ce problème pentecôtiste porta un coup sérieux à la brigade, de même que le problème ecclésiastique de l'unité de l'Église réformée. Il y avait deux unions d'Églises réformées en France, l'Union des Églises réformées et l'Union des Églises réformées évangéliques, hein, et avant 1938. Et en 1938, ces deux unions d'Églises n'ont formé plus qu'une seule Église, qui est l'Église réformée de France. Hein. Mais plusieurs pasteurs ne voulaient pas, parce qu'évidemment, l'Église réformée de France n'a pas la même confession qu'avait autrefois l'Église réformée évangélique. Et ce problème ecclésiastique, après le problème dogmatique du pentecôtisme, fut, d'après mon père, qui en a beaucoup souffert, une des causes principales de la fin de la brigade, qui cessa son activité en tant que telle avec la guerre. Il faut dire d'ailleurs que les brigadiers se dispersèrent, Champondal est rentré à Genève, il a pris la paroisse du Petit Lancy. Pierre Caron, lui, a pris une paroisse en Algérie, à Alger même. Jean Cadier est devenu professeur de théologie à Montpellier. Henri Hébrard est devenu le président de la région de l'Église réformée à Lyon. Si bien qu'ils n'ont plus l'occasion de se retrouver, mais ils se retrouvèrent dans les années 70, dans les conventions d'Anduze, hein, où là, ils ont repris, hein, ils avaient tous plus de 70 ans, et ils se sont dit, puisque les jeunes font plus d'évangélisation, nous voulons en refaire. Hein. Et ils ont, sont repartis, ils avaient tous entre 70 et 80 ans, et ils ont repris le chemin de l'évangélisation. Peut-on faire un bilan de ce réveil ? 80 ans après, qu'en reste-t-il ? Je pense d'abord que le renouveau orthodoxe ou calvinien en France n'est pas étranger à l'œuvre de la brigade. Le message de la réforme et l'autorité de la Bible ont été à nouveau enseignés et le demeurent. Je pense que la fondation de la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, qui est vraiment la faculté réformée, calviniste, évangélique, qui est d'ailleurs la faculté sœur de Vaux-sur-Seine, est un fruit lointain de travail de la brigade. Hein? Et puis, nombreux sont ceux qui sont restés fidèles et sont entrés dans le ministère. Hein? Plusieurs, je pourrais en citer. Mais, Et puis, en voyant aujourd'hui l'état de l'Église, le réveil de la Drôme nous dit aussi que chaque génération a besoin d'un réveil. Avec nos enfants, nous avons fait une expérience à la fois frappante et un peu douloureuse. Nous avons décidé, avec nos deux garçons, qui étaient déjà grands, de faire une sorte de pèlerinage dans tous ces villages où le réveil de la Drôme avait passé. Alors, on a d'abord été à Volvent, ce village où il n'y avait plus de culte depuis 16 ans. On a dû prendre la pelle et la pioche pour rouvrir la porte du temple. On est allé dans ce village. Et puis on a cherché le temple, on ne l'a pas trouvé. Alors on a vu une dame, puis on lui a dit, « Pardon madame, on cherche le temple, où est le temple ?» Elle nous a regardé, « Le temple ? Ah mais il est chez moi !» Et puis elle nous a conduit dans un endroit où il y avait des ronces, où il y avait des orties. On a rouvert, pris des, pas une pelle et une pioche, mais pour, et c'est dans une grange, hein, c'était devenu une grange, qui est, dont le toit était à moitié défoncé, et on voyait dans le fond écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et en effet, c'était le temple qui était de nouveau abandonné. Mais il faut le dire. Puis ensuite, nous sommes allés à Valdrome, qui est là où était pasteur Jean Cadier. On a vu le temple, c'était très impressionnant, je vous recommande, parce que dans le temple, on voit, en 1685, sur les 200 familles de Valdrome, 45 familles sont parties dans les pays du refuge en Suisse et en Allemagne. Et dans cette petite église, on est entré, elle était ouverte, puis quand on est sorti, on a vu une dame qui nous a dit, « Il est beau notre temple, hein ?» Alors, j'ai dit oui, puis il dit, vous savez, on est ici parce qu'on a connu Jean Cadier, et puis on a parlé du réveil de la Drôme. Il nous a dit, vous avez connu Jean Cadier ? C'est lui qui m'a baptisé. Et puis elle a ajouté, ah, quand il était là, il y en avait des conversions. Et puis elle a appelé une autre dame, elle lui a dit, eh bien, voilà des gens qui ont connu Jean Cadier. Et on s'est dit, il y a quand même le souvenir de cette femme, c'était rafraîchissant. Puis on s'est dit, chaque génération a besoin d'un réveil. Et que dire en conclusion ? Ne rêvons pas à recréer, à reproduire ce qui s'est passé alors. La population a profondément changé. La dépopulation de ces campagnes, surtout dans la Drôme, a été galopante. À Valdrome, par exemple, quand Jean Cadier est arrivé dans cette paroisse en 1923, le village était entièrement protestant. Il n'y avait pas d'église catholique. Encore aujourd'hui, il n'y a pas d'église. C'est très rare en France, un village où il n'y a pas d'église catholique, mais où il y a un temple. Hein. Mais ça, c'était Valdrome, il y avait un temple, mais pas d'église catholique. Il y avait 6 épiceries, 2 boucheries, 1 boulangerie, 4 cafés. En 1973, 50 ans après, il n'y avait plus aucun magasin et la population avait diminué des deux tiers. Et j'ai trouvé des statistiques plus fines encore. En 1851, il y avait 1147 protestants à Valdrome. En 1965, il y en avait 81. Voilà la dépopulation. Hein. C'est beaucoup plus difficile hein, d'avoir un réveil maintenant, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Hein. Et puis, un réveil est aussi beaucoup plus difficile, surtout qu'avec le brassage de la population, hein, d'autres personnes sont arrivées. Hein, qui ne sont pas du tout protestantes, qui sont catholiques, qui sont musulmanes, qui sont, etc., comme partout. Et puis il y a beaucoup plus de sollicitations ludiques, comme la télé, comme Internet, etc. D'ailleurs, Valdrome est devenu aujourd'hui une station de ski. Hein. Donc, ne rêvons pas, hein, et regardons la réalité. Hein. Mais ce que je crois toujours valable, toujours actuel, et qui est un appel pour nous tous, et qui restent des clés pour le réveil. D'abord la souffrance devant l'état de nos églises, souffrance qui va jusqu'à l'agonie. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont préoccupés par les églises somnolentes et par le peu de conversions. Mais j'ai parfois l'impression qu'on en a pris son parti. Ou alors, comme on n'a pas d'autre solution, on fait dans le social, ou dans l'animation, ou le conseil psychologique. Hein? Le premier pas vers le réveil n'est-il pas encore, comme au temps de la brigade, cette souffrance, cette agonie par rapport à l'état de nos églises actuellement? Quand je vois, comme je vous disais, ce qui est devenu de la paroisse de Saint-Gervais, où on était 5 pasteurs et maintenant, et 9 avec les paquis, et maintenant que ces 2 pasteurs ont fusionné, il y avait 3 cultes par dimanche. On avait un culte à 8h30, un culte à 10h et un culte à 11h. Et maintenant, il n'y a même pas un culte par dimanche. Hein. Et mais on en a compris son parti. Si on était là pour, dans l'agonie en disant, mais Seigneur, Seigneur, ils ont encore besoin de l'évangile. Hein. Ce premier pas devrait être suivi d'un deuxième pas. N'est-il pas toujours la prière fervente, ardente, repentante peut-être pour nos compromissions, nos lâchetés, notre laisser-faire? Je me rappelle, est-ce que j'ose dire ça? À une des séances de la Compagnie des pasteurs, quand j'étais à Saint-Gervais, à une des séances auxquelles j'ai assisté, qui était le vendredi matin, les séances de la compagnie sont toujours le vendredi. Déjà, c'est Calvin qui avait institué ça, que les séances avaient lieu le vendredi, du temps de Calvin. Mais du temps de Calvin, c'était toutes les semaines. Aujourd'hui, mon temps, c'était tous les 15 jours. Je ne sais pas si c'est maintenant tous les mois ou quoi. Mais une des séances de la Compagnie des pasteurs, on avait discuté, peut-on accepter des pasteurs divorcés? Et il y a eu une longue discussion, et à la fin, il y a eu un vote. Et le résultat du vote, c'est qu'à une très faible majorité, on a accepté des pasteurs divorcés dans l'Église. Et je me rappellerai toujours, le pasteur René Huber s'est levé et a dit, nous venons de prendre une très grave décision. Nous verrons dans 30 ans ce que sera l'Église. Eh bien, on est 30 ans après. Et je crois que là aussi, face à nos compromissions, face à tout ce que nos lâchetés, nos laisser-faire, hein, une repentance des responsables. Et comme à la pastorale de Cré, le troisième pas n'est-il pas que le réveil commence par les responsables? Oserons-nous dire, comme Henri Hébrard à Dieu le fit, « Frères et sœurs, le réveil a commencé dans notre Église, et le premier réveillé, c'est moi. » Et puis j'en ai peu parlé, mais l'œuvre de la brigade n'aurait jamais été possible si ces pasteurs n'avaient pas été admirablement épaulés par leurs épouses. Quand Jean Cadier raconte ce qu'était le presbytère de Valdrome, où il était avec sa jeune femme et leur bébé qui venait de naître, il avait 25 ans, et comment pour entrer dans son beau, il fallait passer par la cuisine, ils n'étaient jamais seuls, et la consécration non seulement des pasteurs, mais de leurs épouses. Et je crois qu'une des grandes préoccupations actuelles, c'est la vie des couples pastoraux. Est-ce que je peux encore raconter une chose? Je vais dévoiler tous les secrets de sacristie. Dans une pastorale à Lausanne, où il y avait les autorités de l'Église, un des pasteurs s'est levé et a dit « Je suis préoccupé par l'état des couples pastoraux. » Et le responsable de l'Église a eu cette parole, il n'a rien dit d'autre. « Oh, le taux de divorce des couples pastoraux n'est pas plus grand que celui de la moyenne de la population. » C'était la consolation. Avoir des couples pastoraux solides et solidaires. Enfin, une cinquième clé, encore et toujours, c'est cette unité entre émotion et enseignement. Un réveil produit toujours de l'émotion et de l'enthousiasme. Mais s'il n'y a que ça, il ne durera pas. Ce sera qu'un feu de paille. Il nous faut aussi des messages clairs, des fondements bibliques sûrs, des appels clairs et des décisions claires et une doctrine vivante et des études bibliques fréquentées, un amour de la parole de Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas de rêver à cette époque du réveil de la Drôme. Elle ne reviendra pas telle qu'elle. Mais si ces cinq points que je viens de mentionner sont remplis, et d'abord si nous les responsables, nous sommes vraiment décidés à entrer dans une vie de consécration et de réveil, je suis sûr que quelque chose bougera dans nos églises. Amen. Merci. Voilà, on pourra dire encore beaucoup de choses, mais...
Peut-être un temps de questions?
Oui, si...
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Charabelle.
Oui, alors, au tout début, je vous avais parlé des jeunes pasteurs qui arrivaient là dans la Drôme.
Oui.
En fait, tout le monde était envoyé par l'Église, ou bien c'était des jeunes pasteurs du lieu qui apprennent à faire leurs études ou...
Non, c'était... Donc à cette époque, il y avait plus de postes pastoraux et plus d'étudiants en théologie. Ils sortaient de la faculté de théologie de Montpellier. Ils avaient fait une partie, c'était au moment où la faculté avait passé de Montauban à Montpellier, et ils avaient été mis là. Jean Cadier raconte comment il avait été pressenti. Il avait eu un appel pour la paroisse de Puy-Laval, et de Valdrome aussi. Et puis, il ne sait pas pourquoi, il dit, Puy-Laval ne me disait rien. C'est étonnant quand même. Et il a été à Valdrome, et il raconte comment ça, il fallait aller en train, puis ensuite à pied, etc., parce qu'il n'y avait pas de voiture. Et il a eu la conviction que c'était Valdrome, et il a dit aux autorités de l'Église, la paroisse de Valdrome m'appelle, je suis d'accord d'y aller. Les autorités de l'Église ont dit d'accord. Et puis les autres ont été placés là à la sortie de leurs études.
Le pasteur Jean-Paul,
c'était de l'ordre, soit allé en France. Alors lui sortait de Genève. Alors, il avait déjà fait, pendant la guerre, sauf erreur, alors qu'il finissait ses études, un remplacement dans la région, puisqu'il y avait beaucoup de ces pasteurs français qui étaient à l'armée, qui étaient au front, et il manquait de pasteurs. Alors il avait aimé cette région, et on l'avait appelé à Vinsobre.
Henri, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une sorte de préparation? Je sais que c'était des gens libéraux, mais finalement, tu parles de Calvi qui a une conviction d'aller dans sa paroisse alors qu'il n'avait pas du tout vécu un certain réveil. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un plan de Dieu parmi ces quatre personnes qui ont été préparées d'avance?
Ah, en bon calviniste, bien sûr qu'il y a un plan de Dieu. Hein. Dieu est souverain. Mais d'ailleurs, moi je crois que qu'est-ce qu'il faut dire? Dieu n'a pas de plan pour les libéraux. Hein. Il n'a pas de plan d'une église libérale. Hein. Certainement que ces pasteurs, oui, il y avait un plan souverain. D'ailleurs, Cadier raconte que Caron, il avait fait ses études avec Caron et avec Hébrard. Et ayant été à Valdrome, voyant le réveil qui se passait autour de lui, hein, il a dit à Caron, viens nous rejoindre dans la région, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Et donc ils se sont retrouvés, à part Champandal qui venait d'ici, ils avaient tous été compagnons d'études. Hein. Et ils se sont retrouvés aussi comme des amis. Mais certainement, Dieu avait un plan pour eux. Maintenant, on peut dire aussi qu'à côté de la brigade, les quatre, c'était le tétrapied du réveil. Il y avait d'autres pasteurs qui, sans être membres de la brigade, étaient très proches d'eux, comme Maurice Ladore, qui était lui pasteur à Poix-Laval, comme pasteur Anto Marquis, comme d'autres aussi, comme pasteur Sablier, qui était pasteur à Bordeaux. Hein, qui était très proche, hein, qui parfois remplaçait. Hein, et il y avait là tout un mouvement de pasteurs qui me fait dire que dans les années 1920, il y avait un fond de piété évangélique plus important que maintenant.
Ça veut dire que chez nous, évangéliques, on a souvent l'impression qu'une cassure, avant on n'était rien, et puis la conversion change tout. Et là, on a l'impression que c'est des gens qui ont commencé quelque chose qui n'était pas forcément dans un changement fondamental, mais qui se sont mis en route, qui ont eu un certain fardeau, alors qu'ils n'étaient pas du tout convertis encore.
Oui.
Donc, on a l'impression qu'il y a un travail du Saint-Esprit qui s'est fait déjà bien avant que le pasteur il monte sur chair et dit voilà, je suis le premier.
Oui, c'est ce que disait Champandal. Quand il a dit premier pas vers le réveil, deuxième pas, c'est le pasteur Champandal lui-même qui dit ça. Le premier pas, ça a été notre souffrance. Et c'est vrai que tous les pasteurs n'ont pas eu cette souffrance. Certains ont été des fonctionnaires. Mais ces pasteurs-là ont une souffrance. Et c'est intéressant de savoir que Jean Cadier, qui était sorti de la faculté rationaliste, il raconte aussi dans ses souvenirs qu'en fait, il avait beaucoup écouté Rubin Sayens quand il était adolescent et que ça l'avait profondément marqué et que le réveil avait ranimé quelque chose qui sommeillait en lui. Et Champandal aussi, son grand-père l'avait beaucoup marqué. Ça aussi, ça avait réveillé quelque chose. Et puis sa future belle-mère s'était chargée de remettre la sauce. Hein. Ça c'était ce premier pas, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'à la pastorale de Cray, les pasteurs auraient pu dire à Bordigoni, allez, tais-toi, on ne veut pas t'entendre. Et qu'au contraire, là, le Saint-Esprit les a brisés. Non, mais ils faisaient fonction de pasteur, oui. Mais justement, les pasteurs, avec leur morgue intellectuelle, auraient pu dire « qu'est-ce que tu as à nous dire tant que tu n'as pas fait d'études hein? ?» Alors que non, ils se sont sentis interpellés. Je crois que le réveil, merci de dire ça, je crois que le réveil nous surprend toujours. On ne peut pas faire un organigramme du réveil. Hein. On va faire ça et ça et ça. Et puis, point 4, il y aura le réveil. Non, le réveil nous surprend toujours. Hein. On le verra la prochaine fois avec le réveil méthodiste. C'est pareil. Hein. C'est au moment où on ne s'y attend pas, à l'endroit où on ne s'y attend pas, hein, avec l'homme qu'on ne pensait pas que ce serait lui, pouf, le réveil vient. Parce que Dieu est souverain. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même certaines clés du réveil qui sont notre engagement personnel et notre consécration.
Merci Philippe de m'avoir rappelé toute cette histoire de ce réveil de la Drôme. Vous l'avez entendu, la prochaine fois, mercredi 18, c'est le réveil méthodiste au 18e siècle. On se réjouit là de poursuivre cette histoire des réveils.
Alors bien sûr, le réveil méthodiste, là le réveil de la Drôme, c'est une petite chose dans une petite partie d'un pays de chez nous. Le réveil méthodiste, alors ça a enflammé toute l'Europe.
Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Merci encore Philippe, merci encore à chacun. Et bonne rentrée chez vous. Je pense qu'il y a d'autres lieux, notamment bientôt un mardi de prière. Je crois qu'on va terminer ici ce soir. Peut-être que la dernière fois, on prendra plus de temps pour cela.
Je vais encore dire juste une chose. Vous qui aimez l'histoire, puisque vous êtes là, si vous aimez l'histoire, je vous recommande un voyage en Tunisie. Parce que la Tunisie a été pendant des siècles le cœur du christianisme en Occident. Aux environs de l'an 200, il y avait 250 évêques en Tunisie, alors qu'il n'y en avait aucun en Suisse, alors qu'il y en avait 4 ou 5 en Gaule et encore. Et tout ça, progressivement, a disparu. Pourquoi ? Ça aussi, c'est une des leçons d'histoire. C'est une des choses que nous voulons voir en voyant les restes du christianisme en Tunisie, où il y a des choses fabuleuses, et étudier les plus grands parmi les pères de l'Église, qui étaient tous des Tunisiens. Pourquoi Alors voilà, je vous recommande au mois de mai. Voilà.
Merci.
Et à mercredi prochain.
À mercredi prochain.